On va accueillir maintenant David Chavalarias sur les traces de la société numérique, quantification de l'évolution des sujets dans les journaux scientifiques, la presse et la blogosphère.
Bonjour. Alors, déjà, je remercie les organisateurs de cette journée, qui est vraiment très intéressante. Et donc là, je vais continuer en prenant un aspect complémentaire, voire le contre-pied de ce qui vient d'être exposé. Donc je vais m'intéresser à l'analyse des corpus à grande échelle, mais absolument pas dans la dimension argumentative, c'est-à-dire dans le traitement de l'argumentation, mais vraiment en essayant de voir qu'est-ce que l'on peut dire, jusqu'où on peut aller, en fait, dans l'analyse purement quantitative d'une information très pauvre qui va être là essentiellement les statistiques sur les termes. Donc, c'est pas un parti pris en disant que c'est là qu'il faut aller, mais c'est vraiment une espèce de position jusqu'au boutiste pour dire, voilà, une fois qu'on aura des résultats là-dessus, on pourra les combiner avec d'autres. Alors, si on regarde un petit peu le millefeuille temporel des territoires numériques, pour citer que certaines grandes plateformes, on voit qu'on a un ensemble d'échelles de temps qui vont donc d'une échelle typique du mois pour l'ensemble des publications des sciences. Puis après, on a les presses, les revues de presse qui sont, elles, quotidiennes, les blogs qui sont souvent mis à jour plusieurs fois par jour, puis les tweets, puis les requêtes Google. Et tout ça, ça constitue une masse de contenu textuel qui ont chacune chacun leur temporalité propre. Et donc une question, c'est est-ce que l'on peut analyser ces grandes sources de contenu textuel de manière temporelle, donc diachronique, et puis avec des méthodologies qui seraient comparables. Alors, si on prend des exemples, je viens de les mentionner tout à l'heure, on va voir que l'objet de base est toujours le même. On a un certain nombre de documents ici qui sont produits, donc qui vont être des articles scientifiques, des tweets, des articles de presse. Ces documents sont produits d'un côté par des acteurs, et puis ils peuvent être décomposés eux-mêmes en contenu, le contenu le plus minimal étant le terme ou l'ensemble de termes. Et si après on veut l'étoffer, on peut penser à des choses plus du côté de l'argumentation, mais on ne s'aventurera pas là. Et donc une des questions, c'est de savoir est-ce que l'on peut analyser ce type d'objet, donc qui est un petit peu hétérogène, à différents niveaux. Alors, une des choses que je vais essayer de vous montrer un petit peu, c'est vraiment pour donner un petit peu des impressions, c'est est-ce que l'on peut reconstruire la dynamique de ces corpus, c'est-à-dire ce qui s'y passe, les sujets qui y sont traités, de manière assez superficielle mais assez massive. Est-ce qu'il y a des régularités et des lois qui régissent les formes que l'on va obtenir par cette méthode? Qu'est-ce qui pourrait être modélisé ou prédit? Donc je ne vais pas répondre à ces questions, mais je vais donner un petit peu des pistes, parce que c'est une recherche vraiment en cours. Et ensuite, est-ce qu'à partir de ce genre d'études, on peut les articuler avec des approches plus classiques des sciences sociales? Par exemple, si on parle de l'évolution des sciences, où il y a beaucoup de théories sur la manière dont les sciences évoluent, par rupture, brusque ou continue, avec différentes étapes, etc. Est-ce que l'on peut confronter ce genre de théorie avec des analyses comme ça quantitatives? Alors, m'intéresser essentiellement dans cette discussion, puisque là on n'a que 20 minutes, à la partie droite du petit dessin, là, c'est-à-dire les espaces dits sémantiques ou cognitifs, bien qu'ici le sens, vous allez voir, c'est une vue très limitée. Et donc, on va s'intéresser à la reconstruction des espaces cognitifs ou sémantiques à partir de ces bases de données. Donc, j'ai commencé par prendre l'exemple de la science, où en 2010, on a pratiquement plus d'un million d'articles qui sont référencés par Thomson, Thomson Easy, donc ça veut dire en fait beaucoup plus dans la vraie vie, et énormément de citations qui sont également référencées. Donc la question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Alors moi, je me suis lancé là-dedans de manière un petit peu fortuite. En balançant sur les archives, je m'intéressais à l'évolution des fréquences de termes, un peu à la Google Trends, pour ceux qui connaissent. Et puis, en balançant sur des archives comme Medline, je me suis dit, toutes ces fréquences d'occurrence et de co-occurrence des termes, elles sont déjà là, elles sont dans les archives. On peut les avoir rien qu'en faisant des requêtes sur les moteurs de recherche. et qu'est-ce que l'on pourrait tirer d'information comme information, rien qu'à partir de ces petits nombres qui, en gros, vous disent, sur une période donnée, combien de fois deux termes apparaissent ensemble, combien de fois un terme apparaît dans des articles, etc. Donc j'avais commencé à crawler Cyrus et je me suis vite fait arrêter par Cyrus, qui m'a blacklisté. Et donc j'ai commencé à faire ça un petit peu plus sérieusement. Et notamment, une des questions, c'est de savoir si on peut reconstruire l'évolution des sciences scientifiques et aussi leur hiérarchie. C'est-à-dire que quand vous allez déposer un article dans HAL, par exemple, on vous demande est-ce que vous savez de la physique, des maths, de la bio, de la sociologie. Vous dites sociologie et puis après, il y a encore des ramifications. Donc ça, c'est des choses qui sont faites par des humains. Et la question, c'est est-ce que l'on pourrait le faire automatiquement, cette hiérarchie par des machines. Et donc, remontrer un petit peu les différentes catégorisations et sous-catégorisations du paysage scientifique. Alors, si on regarde uniquement les mesures d'apparition de termes ou de coapparition de termes, alors quand je dis termes, ça peut être multiterme, ça peut être gaz à effet de serre, hein, c'est plutôt des expressions comme ça. On peut voir qu'à peu près tout est lié à tout, et c'est pas très... Il n'y a aucune structure a priori comme ça. Donc, toute la démarche maintenant, on va essayer de donner de la structure à ces réseaux d'occurrence et de co-occurrence de termes. Donc, c'est vraiment dans la tradition des analyses par co-word qu'avait initié Calon dans les années 80. Sauf que maintenant, on a l'avantage et la chance d'avoir beaucoup plus de puissance de calcul et aussi des théories sur... l'analyse des graphes qui permettent de produire des résultats un peu plus massifs, on va dire. Enfin, en tout cas, complémentaires à ce qui a été fait. Alors, je vous résume très rapidement un petit peu la démarche et les différentes étapes d'une analyse de corpus à grande échelle que l'on peut faire. Et après, je vous montrerai quelques exemples. L'idée, c'est vraiment un petit peu de vous donner un petit peu le goût de ce qui se fait. Donc, quand on commence à attaquer un corpus, par exemple les sciences, on récupère dans l'ordinateur, par exemple, tout Medline, 30 quelques millions de résumés, de métadonnées sur les publications. Et donc, la première question, c'est comment on essaye de s'attaquer à des sous-parties de ces grosses choses. Donc, pour le moment, nous, on s'est surtout intéressé à essayer de faire des cartographies dynamiques de sous-domaines de sciences. On pourrait le faire en fait d'un coup pour l'ensemble des sciences, mais c'est juste des problèmes techniques de temps de calcul et de mise en place d'infrastructures et donc d'argent que l'on n'a pas. On prend des sujets, par exemple l'embryologie, comment s'est développée l'embryologie, etc. Donc on prend un corpus et la première phase consiste à identifier un sous-corpus qui va porter sur une question très large. Alors une autre question très large, par exemple, qu'on a fait sur les blogs, c'est le ministère de la Recherche nous avait demandé de regarder l'évolution des sujets sur santé et environnement. Donc voilà, un truc très 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 large. Donc on prend un sous-corpus et de ça, on va faire des opérations de text mining, de traitement automatique du langage, pour extraire un ensemble de vocabulaire qui va être un vocabulaire saillant à ce corpus, donc du vocabulaire technique ou moins technique, mais qui va être faire partie, en gros, des discussions qui ont lieu au sein de ce corpus et qui y sont spécifiques. Une fois qu'on a fait ça, donc c'est l'étape 1, on va indexer donc tout ce vocabulaire saillant pour avoir les statistiques sur les occurrences et les co-occurrences. Et on va avoir donc une liste de termes avec, pour chaque terme, le nombre d'occurrences et co-occurrences avec tous les autres termes. Alors il s'avère que cette information qui est déjà très pauvre, puisqu'on ne sait pas tellement dans quel contexte ça apparaît, et en fait déjà est aussi très très biaisée parce que le compte des co-occurrences est pas très informatif en soi. Donc, il y a des transformations de mesures statistiques sur ce type de données où on prend des mesures de proximité, donc qui vont traduire des relations entre termes qui vont être plus de l'ordre, par exemple, au choix, hein, des relations qui vont être plus des relations de synonymie ou des relations de généricité, spécificité entre un terme, par exemple, réchauffement climatique et après les gaz à effet de serre et des gaz très particuliers d'effet de serre. Donc, des relations comme ça. Et donc ça va être encodé dans une transformation qu'on va faire de ces données de co-occurrence à travers une mesure de spécificité. La troisième étape, c'est que donc on va avoir ces termes avec des relations qui ont un peu plus de sens, on va dire, via cette transformation, et on va essayer d'identifier des sacs de mots parmi ces termes-là qui vont qualifier des sujets. Donc quand, par exemple, on vous demande quels sont vos centres d'intérêt, souvent vous donner 4, 5, 10 mots-clés. Et donc, on va essayer de faire la même chose, c'est-à-dire d'identifier des centres d'intérêt définis par un certain nombre de mots-clés. Et par centre d'intérêt, on va avoir des mots-clés plus spécifiques ou plus génériques. Par exemple, il va y avoir plusieurs centres d'intérêt autour de l'intelligence artificielle, suivant les méthodes utilisées, suivant les applications, etc. Et donc ça, c'est un algorithme qui se fait sur les mots et leurs statistiques et qui va sortir des groupes de termes, comme ici, là, qui vont être liés entre eux, qui vont garder les liaisons originales, mais qu'on aura identifiées comme un sujet. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à l'évolution de ces sujets. C'est ce qu'on appelle donc, cartographie, donc ça c'est l'articulation des sujets entre eux à un moment donné, et puis l'évolution, donc leur dynamique dans le temps, est-ce qu'ils se ramifient, etc., etc. Donc je vais passer très rapidement sur l'ensemble de ces étapes avant de vous donner des exemples. Alors par exemple, mesure de proximité que l'on peut avoir qui est très simple au niveau des termes, c'est la probabilité conditionnelle d'un terme sachant un autre, qui va tout simplement assez vite vous catégoriser à partir d'une expression, comme par exemple Genetic Network ici, des termes qui vont être plus génériques, comme par exemple gene, expression, modèle moléculaire, ou des termes qui vont être plus spécifiques, comme Transcription Networks ou Network Motif, etc. Donc déjà au niveau micro du terme, on peut avoir une idée de directionnalité dans la navigation de ces bases de données. Ensuite, donc, ce dont je viens de parler, c'est-à-dire qu'on identifie des ensembles de termes qui vont définir des sujets. Donc, par exemple, ici, un ensemble de termes autour de data mining. Je ne détaille pas la représentation graphique vu le temps, mais on a ici des termes qui sont plus génériques en haut, plus spécifiques en bas à droite. Et c'est data mining dans l'acceptation knowledge discovery, machine learning. Donc ça, c'est un ensemble de termes qui pourrait décrire le sujet d'une conférence ou d'une session de conférence qui ont été identifiés dans un corpus entre 2003 et 2006. Et ensuite, on peut essayer de montrer comment tout ça s'articule. Donc là, par exemple, ici, vous avez une carte. Chaque petit point là que vous voyez, c'est un terme. Les couleurs sont les clusters. Donc si on regroupe les couleurs ensemble, on a un sujet. Par exemple ici, c'est la species diversity, etc. Et puis les sujets eux-mêmes s'articulent au sein d'une carte. Donc là, il y a la question de la spatialisation et de la représentation graphique de ces sujets qui permet de naviguer un petit peu dans ces corpus-là, de voir ce qu'on a. Juste pour information, par exemple, cette carte-là a été produite dans le cadre d'une étude sur le risque, et il s'agissait de cartographier tous les types de risques, enfin en tout cas tous ceux qu'on pouvait attraper, et de montrer comment ils étaient liés, quels étaient leurs contextes. Et donc là, on a tous les, en bas, dans la région en bas, on a tous les types de risques plutôt du côté biologique, santé, humain, et plus on va vers le haut, plus on a des risques qui sont liés plutôt aux écosystèmes et aux infrastructures technologiques. Alors, maintenant, je vais dire quelques mots de la dynamique qui est le plus intéressant. Donc, en gros, comment cet espace, comment ce paysage-là peut varier dans le temps. Alors, vous connaissez certainement le Google Trends que j'ai déjà évoqué, où on voit à partir de juste d'un terme comment ces fréquences évoluent. Si vous regardez Fukushima, vous avez juste un pic ici qui a fait un buzz et qui est reparti. Vous avez des choses récurrentes comme Pâques. Qui revient toutes les ans. Donc là, c'est les requêtes dans Google sur un mot donné. Et puis, vous avez les tremblements de terre qui, effectivement, sont beaucoup plus irréguliers. Donc ça, c'est vraiment au niveau juste de la dynamique du terme. Mais alors maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt d'avoir une qualification un peu plus complète d'un sujet plutôt que juste de dire Fukushima. Bon, il y a plein de sujets de débat autour de Fukushima qui vont correspondre à des lexiques différents. Et donc, de partir plutôt du niveau qu'on peut dire méso, ici, du groupement de termes, donc du sujet qui a été identifié par les algorithmes que j'ai dit précédemment, et de voir comment ces choses-là vont évoluer. Donc, quand entre deux périodes de temps successives sur un corpus donné, vous avez identifié pour chaque période ici un certain nombre de sujets, donc ici, chaque patate de couleur ici représente un ensemble de termes rassemblés dans un sujet, il y a plusieurs évolutions que vous pouvez avoir par rapport à ce sujet, un enrichissement de son vocabulaire, donc des nouveaux termes qui apparaissent, ou un appauvrissement, éventuellement aussi une fusion avec un autre sujet, par exemple aussi en économie, vous avez la fusion de l'économie et de la physique qui donne un espèce de super domaine d'économie physique, on mélange un petit peu les deux vocabulaires. des scissions, des émergences, etc. Et donc, la question, c'est de savoir si on peut retracer ces choses-là. Alors, techniquement, c'est pas très, très compliqué. Une fois qu'on a défini les sujets période par période, on définit des distances entre sujets et on peut, comme ça, définir des liens en disant, voilà, là, j'ai un sujet ici, deux sujets qui ont fusionné pour donner ce plus gros-là. Et puis, j'ai un petit sujet là qui est un peu connexe, qui est la suite de B, ici. Et ce que ça nous donne, ensuite, c'est des cartographies dynamiques de notre corpus, où on va voir au cours du temps, alors ici, chaque carré ici, c'est un sujet, si vous rentrez dedans, vous avez un ensemble de termes qui va caractériser le sujet à une période donnée, par exemple en 91, et au cours du temps, vous allez voir comment ce sujet-là évolue, se ramifie éventuellement, continue, ici avec deux évolutions parallèles, et vous sortez, donc ça c'est ce qu'on appelle une branche philomémétique, qui est un petit peu comme la branche phylogénétique en biologie. Et donc quand vous analysez un corpus, là par exemple c'est le corpus en embryologie, ce que vous sort l'analyse, c'est tout un ensemble de branches qui chacune va correspondre à un certain nombre de recherches en embryologie, et chaque branche va avoir sa dynamique propre avec ses caractéristiques en termes de ramification, d'émergence de nouveaux concepts. Par exemple, ici en rouge, c'est à chaque fois qu'il y a des nouveaux concepts qui apparaissent dans la branche qu'on considère. Et ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser ce genre de représentation, à la fois pour la navigation, pour l'exploration de corpus, avant l'interprétation, c'est-à-dire préparer l'interprétation. Après, on se place sur une branche, et là, on utilise notre cerveau ou on utilise Marlowe. Ou alors voir s'il y a des régularités dans ce genre de structure. Donc là, pour voir un petit peu du côté épistémologie, si on peut trouver des régularités qui entreraient en résonance avec des régularités dont on a fait l'hypothèse en histoire des sciences et philo des sciences. Donc ce que l'on a au final, c'est une structure un peu multi-échelle comme ça, où on a la dynamique du terme au départ, au niveau le plus bas. Chaque terme peut être regroupé dans des ensembles de termes, éventuellement dans plusieurs ensembles de termes, qui vont qualifier des sujets, et ensuite l'évolution des sujets eux-mêmes sous forme de ces branches philomémétiques. Ça peut servir, je ne vais pas le détailler ici, mais ça peut servir éventuellement après pour regarder des trajectoires. Donc ça vous donne un espèce de paysage dynamique, par exemple appliqué aux sciences, ça vous donne une espèce de paysage dynamique d'un champ scientifique. Après, une fois que vous avez cet espace sémantique dynamique. Donc ici, je vous rappelle, hein, c'est le temps, ici. Hein, donc tout ça, c'est les sujets à un moment donné, puis ils évoluent dans le temps. Vous pouvez vous poser la question, si je prends une personne, comment est-ce qu'elle a évolué dans ce paysage qui lui-même évolue? Donc par exemple, ici, on a pris une personne et ses publications, et plus c'est rouge, plus il a publié dans ce domaine-là, et ce que l'on voit, c'est que cette personne-là suit plus ou moins cette branche-là, avec quelques incursions de ce côté-là. Et donc on peut facilement imaginer, regarder le flux, en gros, des gens qui ont produit en fait cette représentation, puisqu'elle a été faite à partir de leur production, dans cette macrostructure. Alors très rapidement, oui, parfait, très rapidement quelques exemples. Donc ce qui est intéressant avec cette méthodologie, quand on prend la perspective un peu scientométrique, où beaucoup de gens utilisent des citations ou des structures de liens qui sont spécifiques à certains corpus, c'est que là, on prend juste le contenu brut des textes, et donc on peut appliquer cette méthodologie de manière transversale à tout un ensemble de médias, par exemple les sciences, donc ce que j'ai déjà évoqué, la presse. Donc ici, par exemple, ça, c'est une étude sur la sécurité alimentaire vue par la presse sur une dizaine d'années. Où on voit un petit peu comment les perspectives ont changé. Et aussi les blogs, donc où on essaye de retracer un peu les débats. Donc, par exemple, santé-environnement, dont je parlais tout à l'heure. Alors, justement, pour détailler juste un petit peu ce dernier exemple, si vous prenez la blogosphère, vous pouvez prendre... je ne sais pas combien, 200 000 billets qui ont été produits pendant 6 mois, c'est ce qu'on avait fait. Et on a demandé tous ces billets, après l'analyse lexicale qui a sorti quelques milliers de termes spécifiques à santé et environnement, quels sont les sujets. Donc un sujet, ça c'est un exemple de sujet, c'est le sujet sur le Mediator. C'était en 2009, fin 2009, hein, entre juillet et septembre. Le médiateur ici qui sort par un article du Telegram.fr qui dit juste qu'il va y avoir un délibéré sur médiateur. ça repart, ça retombe. Et là, on a vraiment les rebonds dont on parlait tout à l'heure dans le précédent exposé. Ici, une fuite dans la caisse d'assurance, de la caisse d'assurance maladie, qui dit du rapport qui dirait qu'il y aurait 500 morts, mais elle est vite étouffée. Ça, c'est la ici, vous avez l'amplitude de la réaction de la blogosphère en termes de production sur le sujet. Et puis ici, la publication du rapport où, effectivement, cette fois-ci, le médiateur a fait de 500 à 1000 morts. Et puis les différentes vagues qui vont correspondre à différents scandales, en fait, politiques, sanitaires, économiques, etc. Et donc, l'idée, c'est de créer une plateforme qui vous permet de naviguer dans ce type de sujet en vous montrant tous les sujets qui ont été développés à un moment donné, qui sont ici. Vous en sélectionnez un. Ça vous montre l'évolution du sujet au cours du temps. Puis son découpage en termes de termes d'acteurs. Ici, les différentes couleurs, c'est les médias, les blogs, les institutions, etc. Et puis le suivi sous forme de phylogénie. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on a dépassé le temps. Juste pour dire qu'il y a un deuxième aspect, et pour ceux qui sont intéressés, ils pourront aller regarder. On a fait un article récent dans PLOS à ce propos-là. C'est qu'ensuite, ça c'est pour l'aspect exploration et aide à l'interprétation. Il y a tout l'aspect donc analyse statistique et on montre par exemple que pour certains domaines scientifiques, on les a pas tous fait encore, mais donc dans certains domaines scientifiques qu'on a regardés, qu'on a étudiés, il y a des régularités sur les formes des arbres phylogénétiques avec des indicateurs quantitatifs qui sont fortement corrélés avec la structure de l'arbre et qui donc pourraient éventuellement, si on arrive à le démontrer proprement, servir à prédire en probabilité l'évolution d'un champ scientifique. Voilà, je vous laisse tranquille, on va dire. Merci. Alors, pour votre écoute.
Apparemment, il y a des questions. Merci beaucoup.
C'était pour le médiateur. Je voulais savoir le problème des bornes. Vous choisissez comment votre borne de départ. Je pensais à la publication du livre de Madame Frachon, le médecin là, salarié temps plein public qui risque rien pour son emploi. Et est-ce que vous l'aviez inclus et le pic émerge comment? Je ne sais plus la date de publication. Alors, de son livre et des menaces et l'interdiction et le bandeau et les procès et les trucs et les machins. Est-ce que ça émerge? Et sinon, l'autre chose, est-ce que là figure juste le nom de dans la blogosphère, c'est le nombre de sites ou est-ce que le nombre de consultations par site, en fait?
Alors, pour la première question, là c'est... La représentation qu'on voit là est dépendante en fait de la fenêtre d'observation qu'on a eue, qui était de juillet 2009 à janvier 2010. Je ne sais pas quand était publié le livre dont vous parlez. Mais enfin, donc là, c'est purement la fenêtre d'observation. Il y a probablement eu peut-être des choses dont on a parlé avant hein, de Mediator, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir là vraiment le départ de la polémique dans la presse. Avec au début juste un site qui en parlait, et puis après les différents acteurs qui rentrent. Pour la deuxième question, rappelez-moi.
C'est le nombre de consultations multipliées ou additionnées.
Alors ici, si vous voulez, pour faire ce calcul, on regarde pas les consultations de sites, on regarde la production des sites. Donc on prend les billets.
Exclusivement, d'accord.
Et exclusivement, même si c'est voilà. Nul, okay. Et en fait, on reconstruit des sujets et l'attention des sujets est mesurée en termes de nombre de billets sur ce sujet-là. C'est pas du tout une mesure de. Non. On pourrait, mais on n'avait pas la formation, là, c'est tout.
Question. Marin Lacoste.
Je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit, parce qu'en fait, il y a un vrai problème sur les études du web, c'est qu'à peu près personne ne sait quelle est la fréquentation des autres sites que celui qu'on produit, à part Google, qui le sait bien plus que nous tous. Et donc aujourd'hui, on a un vrai problème de transparence ou d'information sur les véritables impacts de certaines informations. C'est-à-dire qu'en fait, il ne peut pas avoir cette information. Vous allez chercher, vous ne l'auriez pas trouvée. Elle est absolument, c'est l'objet d'un secret.
Si on demande à chaque...
Si vous le demandez, oui. J'imagine que vous avez parlé de 200 000 billets, donc ça veut dire consulter 2000 personnes qui ont publié chacune 100 billets. Enfin, vous voyez, ça devient... Et les gens n'ont pas tous les mêmes méthodes de calcul, tous pas accès à leurs statistiques, etc. Mais le problème de la mesure des usages, d'une part, de lecture, pas de production. Le problème de la mesure de la production, c'est un vrai problème, ça. Ce qu'on mesure, c'est la production, pas l'usage. C'est un problème majeur qui n'est pas du tout résolu et qui est un problème de société avant d'être un problème technologique et d'un problème scientifique.
Alors, par rapport à ça, il y a justement des études très intéressantes qui sont en train de sortir depuis quelques années. C'est justement sur l'analyse des données d'usage. Par exemple, si on peut récupérer les requêtes Google, ça donne une idée de, justement de, là, des désirs d'accès des gens. Et donc ça, c'est des données très, très intéressantes aussi, mais qui sont encore rares.
Elles sont d'autant plus rares que Google maintenant fait transiter toutes les requêtes en HTTPS. Ouais. Et elles sont plus dans, en reste dans l'URL, donc elles sont plus dans tout ça, parce que Google ne veut pas donner les informations.
Ouais, ouais.
Donc on va vers de l'opacité plutôt que de l'information. Très clairement.
Non, c'est pour ça que c'est assez dramatique que Google soit le principal moteur de recherche et qu'on n'ait pas Exalead ou je sais pas quoi. Enfin, je sais rien, mais...
Nous allons maintenant écouter donc Jean-Christophe Plantin, donc son intervention, ouvrir la boîte à outils de la recherche numérique, une analyse ethnographique de trois laboratoires.
Oui, merci. Merci aux courageux qui sont encore présents jusqu'à la fin. Merci aux organisateurs de l'événement. Hein. C'est un grand plaisir pour moi de présenter donc cette approche. Projet de recherche encore exploratoire hein, sur la tribu relativement intéressante des chercheurs en digital humanities. Donc du coup, je vais vous présenter les premières étapes de cette recherche encore à venir hein, toujours, consistant en une analyse ethnographique de laboratoire hein, à propos de trois courants de recherche numérique, donc à la fois les DH, bien évidemment, mais deux autres courants, donc les cultural analytics autour de la figure de Lev Manovich et les digital methods autour de la figure de Richard Rogers. Bien évidemment, je décrirai un peu plus ces champs. Je ne vais pas vous présenter toute l'étendue de ce projet de recherche, bien évidemment. Je vais me concentrer sur un point particulier hein, qui va me permettre de vous présenter le travail documentaire, la pré-étude de terrain, qui porte donc sur la mise en avant des étapes de construction des données numériques dans le cadre de la pratique de recherche. D'une certaine manière, j'essaie de voir comment est-ce que, dans le cadre de pratique de recherche, on peut conférer de la science à la construction des données. Avec, donc, pour hypothèse, bien évidemment, qu'il y a des passerelles entre ces étapes de construction des données dans les trois types de recherche numérique analysées. Recherche numérique, qu'est-ce que ça veut dire que ce terme ? En fait, c'est le terme un petit peu chapeau, si vous voulez, pour ne pas prendre position vers un courant spécifique, essayer de le garder un petit peu plus large. Donc, une recherche au sein duquel le numérique ne sert pas seulement comme outil, hein, c'est-à-dire pas seulement l'utilisation de Word ou des emails, etc. Également, où le numérique, ou plutôt un type de recherche qui ne prend pas seulement le web comme terrain d'enquête, hein, on parlait des web science tout à l'heure, c'est pas seulement ça. Également, donc, où le web n'est pas seulement un outil de publication, comme par exemple sur la plateforme Hypothèse, mais c'est une recherche qui, donc, se base sur des données numériques, à la fois numérisée et à la fois nativement numérique, on verra l'importance de cette différence, et qui développe également des méthodes numériques adaptées pour traiter ces données. Voilà. Pour le dire autrement, à travers cette recherche, j'aimerais réfléchir aux modalités concrètes pour passer de là du terme de data au terme de CAPTA. Hein. Ça, c'est un mouvement que Johanna Drucker nous invite à faire. Elle pour essayer de mettre en avant le fait que donc les données ne sont pas données malgré leur étymologie, mais qu'elles sont toujours captées, qu'elles sont toujours construites. Hein. Le fait que les données brutes sont un oxymore, comme dit le dernier livre de Lisa Gittelman. Une fois, et en fait, une fois qu'on a dit que les données sont construites, c'est très bien, mais comment est-ce que l'on fait pour mettre en avant ce processus de construction, en fait ? Voilà. C'est une tâche notamment relativement difficile, hein, parce que on parle beaucoup de mise en ligne des données de création, hein, donc ça, c'est quelque chose d'important pour favoriser la réutilisation, etc., mais qui n'est pas forcément suffisant pour informer, pour rendre compte de ces étapes de création, hein, voire même, ça peut alimenter une certaine rhétorique de la transparence, hein, ça, c'est ce qu'on voit très bien, par exemple, sur, bon, c'est dans le cadre du journalisme, hein, mais le data blog du Guardian, par exemple, qui préfère un article et qui met le set de données utilisées, mais ça n'informe pas sur les transformations que ces données ont subies pour ensuite être visualisées. De même, inclure les métadonnées dans les bases de données scientifiques, ici encore, c'est bien pour la réutilisation, mais ça ne dit pas forcément grand-chose sur les raisons de création des données, les choix qui ont été réalisés au fur et à mesure du processus. Bref, il s'agit de regarder un petit peu ce que ne nous raconte pas la donnée, ce qu'elle ne nous dit pas. Et dernière raison, hein, le fait que on parlait beaucoup des outils de représentation visuelle des données, hein, qui ont tendance, aussi bien la carte géographique que les graphes, ont tendance d'une certaine manière à naturaliser et à cacher les étapes de construction de ces données. ou est-ce que l'on, une certaine manière de voir en fait comment est-ce que ces données de recherche sont construites, peut-être de s'adapter, de s'attarder, excusez-moi, aux tensions au niveau des données. Ça, c'est quelque chose dont nous parle le professeur Paul Edwards, l'université de Michigan, quand il parle de data friction, de friction dans les données hein, qui émergent dans le cadre de pratiques de recherche. Une longue citation où il nous décrit en fait qu'est-ce que sont ces frictions dans les données, c'est tous les mouvements hein, entre people, substrate, organization, machines, etc. etc. Et d'une certaine manière, hein, ce travail essaie de regarder toutes ces frictions dans les données qui émergent dans le processus de recherche en digital humanities. Toutefois, il me semble quand même un peu plus fructueux, non pas de se cantonner au champ des DH, mais justement d'adopter une perspective un peu plus comparative et d'essayer de regarder deux courants de recherche qui ont une tradition de traiter avec cette question des données numériques et qui ont donc développé des techniques pour gérer avec ces frictions des données. Avec l'hypothèse, bien évidemment, que la manière dont ces problèmes sont gérés dans ces différents champs peuvent se retrouver. Il y a un écho avec les problèmes rencontrés dans les DH, bien évidemment. Où trouver ces frictions dans les données ? Une piste, oui, c'est ce que je disais, donc dans le champ des culture analytics et des digital methods que je vais décrire tout de suite après. Où est-ce que l'on peut trouver ces frictions ? Une piste serait donc de regarder les choses ennuyeuses, hein, ce que nous invite à faire Suzanne Listar quand elle fait de l'ethnographie de laboratoire. Elle dit ce qu'il faut regarder, ce sont les choses ennuyeuses, le travail quotidien sur la paillasse, si vous voulez, hein, les tricks of the trades, les petits trucs dans la pratique hein, qui permettent de voir comment on rectifie le tir, comment est-ce que l'on va faire en sorte que les données sont traitables et analysables. Une perspective, somme toute, relativement peu traditionnelle hein, en sociologie des sciences, donc il y a une bonne tradition, une bonne littérature sur cette optique. Donc, tous ces éléments que je vous présente, hein, ils sont analysables dans le cadre d'une analyse ethnographique de laboratoire, observation participante, entretien avec les acteurs, etc., etc. Donc ça, c'est un projet de recherche que je compte mener par la suite. Hein, là, mais donc pour l'instant, ce que je voudrais vous livrer, hein, c'est beaucoup plus une analyse de la littérature grise de ces courants de recherche qui permet quand même de trouver des éléments sur la manière dont ces frictions sont gérées. Pas tant dans les articles, parce que justement, on a tendance à les mettre de côté, mais dans les courants de recherche analysés, on peut quand même le trouver, notamment parce que ce sont des courants qui s'auto-documentent très fortement hein, dans le cadre de documents de cours qui sont mis en ligne, etc. Bah, aussi, ce sont des courants qui veulent faire école, entre guillemets, et qui visent à la réplicabilité. Hein. Donc du coup, c'est sûr que s'ils livrent un petit peu leur truc, ça permet peut-être de disséminer ces pratiques, mais surtout pour le regard du chercheur, c'est bien, ça fait un ensemble de littérature que l'on peut analyser. Donc du coup, le premier courant de recherche se nomme donc les Cultural Analytics. Hein, c'est un courant de recherche créé et animé principalement autour de la figure de Lev Manovich, donc théoricien des nouveaux médias, directeur d'une cellule de recherche qui s'appelle la Software Studies Initiative. Ces objets de recherche, on en voit quelques-uns à l'écran, donc art et design, film vidéo, jeux vidéo, monde virtuel, également médias sociaux, magazines, journaux, manga, toute forme en fait de ce qu'il nomme les formes de culture médiées par le numérique, mais sous forme de grosses masses de données, hein, si vous voulez. C'est vraiment un courant de recherche qui s'inscrit dans une approche big data, on peut dire. Hein, et mais plus précisément ce qu'il nomme Big Cultural Data, hein, des données de la culture en masse. Culture ici dans le sens culture classique, hein, par exemple, il va proposer de réaliser une comparaison de la composition de la totalité des tableaux de Mondrian versus la totalité des tableaux de Rothko, mais également donc plus, acception un peu plus pop culture si vous voulez, hein, il va faire des analyses de l'ensemble de l'analyse des goûts à partir des statistiques de consommation sur Netflix, une plateforme de vidéos en ligne aux États-Unis. Donc, pour s'implanter dans ce champ, hein, il met en place des méthodes qui relèvent du traitement de grandes masses de données. Hein. Typiquement, il bosse avec des informaticiens. Hein. Cette cellule de recherche, il l'a créée à la base, donc à l'école d'ingénieurs en génie informatique de UCLA qui s'appelle Call IT2. Et donc, du coup, ils mettent en place donc une analyse exploratoire de données, data mining, image processing, visualisation de données, des techniques donc relativement classiques en sciences informatiques. Ils développent aussi leurs propres outils pour couvrir toute la chaîne des actions à réaliser, si vous voulez. Donc, à la fois en termes de traitement de masse de données et d'analyse. Les données, justement, d'où est-ce qu'elles proviennent ? Eux, en fait, ils ne font pas de différence entre ce qui est données numérisées et données, ce qu'on appelle nativement numériques. On verra que pour les digital methods, c'est un positionnement différent. Eux, ils prennent les deux, ils font pas forcément de différence. Donc, au niveau des sources de données, ils vont aussi bien aller chercher du côté des infrastructures de données scientifiques. Par exemple, la National Science Foundation avait lancé une compétition qui s'appelait Digging into Data, creuser dans les données. Ils avaient puisé des données là-dedans. Également, ils vont voir au niveau des musées qui choisissent de partager leurs données à travers une API, donc une liste de données auxquelles on peut accéder par des requêtes. API également des médias sociaux, bon par exemple Flickr, Twitter, etc., etc. Et également donc les tableaux de bord des médias sociaux, par exemple je sais pas Google Analytics ou autres. Afin d'illustrer un petit peu ça plus concrètement, je vais vous présenter très rapidement un projet qui est un petit peu phare. Il le présente très souvent. Quand Manovitch était venu à Paris l'année dernière, c'est le projet qu'il avait présenté. C'est celui qui est le plus abouti, qui a donné lieu à pas mal de publications. Donc, il s'appelle 1 million manga pages, qui vise à répondre aux questions suivantes. Quelle est la composition visuelle typique d'un manga ? Est-ce qu'il y a un changement du langage graphique dans le temps et dans les différentes séries de manga ? Est-ce qu'il y a des différences graphiques entre les grandes et les petites séries, etc., etc. Donc, l'étude mise en place pour répondre à cette question suit la méthode suivante. Le process suivant, si l'on veut, extraction de données, là, ce qu'ils ont fait, tout simplement, ils ont développé un petit robot qui a aspiré les données d'un site qui s'appelle One Manga, qui est en fait un site de contenu généré par les utilisateurs, des personnes qui scannent leur manga, donc qui travaillent aussi un petit peu la traduction. Donc ça donnait 883 mangas, donc 1 million de pages, qui donnaient donc le titre à ce projet. Ils ont extrait également les métadonnées. Une activité de nettoyage des données, donc de structuration. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent pas vraiment, ils ne donnent pas vraiment trop d'informations là-dessus. Là, pour le coup, regarder comment est-ce qu'ils bossent concrètement serait assez pertinent. Ils disent qu'ils ont réalisé un sommaire de données. Ils se sont retrouvés avec 54 colonnes et 1 074 790 lignes pour traiter l'ensemble de ces données. Ils ont appliqué un ensemble de statistiques descriptives, écart type, etc., etc., pour arriver donc à l'étape de visualisation et l'étape d'analyse. Là, ce qu'on voit, c'est tout simplement sur l'axe horizontal, on voit les différences entre présence et absence de détails, et sur l'axe vertical, le niveau de gris présent dans l'image. Voilà, ça, c'est un certain type de visualisation. En général, ils en font toute une série. Ça, je vous laisserai voir sur les différents articles qu'ils ont pu publier. Au niveau de la publication, justement, pour eux, Big Data, ça veut dire des gros écrans. On sent qu'ils sont un petit peu aussi contents d'avoir des gros écrans et des gros moyens pour y mettre des écrans comme ça dans le hall de Calaititu. Donc, ils montrent, genre, on fait vraiment des très gros trucs. Donc, voilà. Les outils qu'ils développent sont open source, c'est tout présent en ligne, etc., etc. Donc ça rentre dans cette idée de on va disséminer notre champ. Ils poussent quand même pas les choses jusqu'à livrer les sets de données qu'ils ont utilisés. Dans le cadre de cours, par exemple, Manovitch livre 2-3 petits sets de données pour que ses étudiants puissent s'amuser, mais il donne pas quand même tout. Il y a pas une remontée infrastructurelle, si vous voulez, de partage de données. Le deuxième courant analysé, donc les digital methods, tourne autour de la figure de Richard Rogers, la Digital Method Initiative à l'Université d'Amsterdam, qui a un positionnement un petit peu différent. Eux, ce qu'ils font, c'est ils se spécialisent dans l'étude de ce qu'ils nomment les objets nativement numériques, donc à l'inverse des données numérisées. Eux, ce qui les intéresse, c'est par exemple les hyperliens, ce qu'ils appellent les webs nationaux. Qu'est-ce que c'est la blogosphère hollandaise ? Qu'est-ce que c'est le web iranien, par exemple ? Les moteurs de recherche, les wikis, etc. Ils développent donc des méthodes qui peuvent se regrouper par le slogan « follow the medium », c'est-à-dire, en fait, on va utiliser les entités du web pour faire de la recherche sur le web. On va pas faire intervenir des méthodes déjà existantes et les appliquer au web. Ça, c'est ce qu'on voyait, par exemple, années fin 90, début 2000, autour du travail de Christine Hine, virtuelle ethnographie, virtuelle méthodes, etc. Comment on fait une analyse, comment on fait un entretien avec quelqu'un, mais par email, ou alors comment est-ce qu'on fait une analyse ethnographique, mais dans des mondes persistants, etc., etc. Eux, c'est pas ça qui les intéresse. Hein. Eux, c'est vraiment, on va partir des éléments que le web nous donne et les utiliser en tant que tels. On va étudier Google à partir de ses algorithmes, on va étudier Amazon ou Twitter à partir de son API, etc., etc. Du coup, Follow the Medium, ça permet de faire des t-shirts relativement rigolos comme ça. Hein. Google knows I scrape Google. La personne qu'on voit qui a des petits yeux parce qu'il a pas beaucoup dormi, c'est Eric Bora, qui est en fait un ingénieur informaticien qui est présent, qui est membre de cette Digital Method Initiative. Bon, là, il a participé. La photo qu'on voit, c'est parce qu'il a participé à un hackathon qui a duré toute la nuit, etc. Mais bon, ça c'est ses petites activités personnelles. C'est juste, c'est la seule photo on le voit avec son t-shirt. Donc du coup j'ai pris celle-ci, mais du coup eux en termes de création de données, ils n'ont pas une remontée vers les infrastructures comme fait Manovich, c'est beaucoup plus ad hoc et très spécifique. On parlait des book sprints tout à l'heure, eux c'est vraiment l'idée des data sprints hein, qu'ils mettent en avant, c'est-à-dire on va créer des données en fonction d'un thème spécifique et en fonction d'un événement. Ils organisent tous les 6 mois des universités d'été et des universités d'hiver qui regroupent différents étudiants, différents chercheurs, différents experts qui vont travailler ensemble pendant 4-5 jours donc pour créer des données, extraire des données en fonction d'une source, etc., etc. Ils vont également développer des outils ad hoc pour traiter ces données ou alors modifier des outils qu'ils ont déjà dans la besace et les adapter en fait en fonction des besoins. Donc là, les données, elles peuvent être en grande quantité, mais c'est pas du tout le but, enfin c'est pas du tout leur positionnement à ce niveau-là. Hein. Donc en termes d'extraction de données, comment est-ce qu'ils font ? Soit ils passent principalement, hein, soit ils passent donc par l'API du service en question, de la plateforme. Ça c'est un petit peu la version autorisée d'accès aux données. Ce qu'ils développent aussi beaucoup, hein, c'est scrapping. Donc c'est on développe un petit robot qui va extraire des données, par exemple du HTML pour si on veut analyser telle blogosphère. Donc parfois ça va un petit peu contre les conditions d'utilisation du site, d'où le t-shirt. Google sait très bien que je suis en train de lui extraire des données. Bon, en général, ça bloque très, très rapidement. Ça sous-entend un travail de structuration des données. En général, donc, c'est du tableur Excel. Hein. Ça, on rentre vraiment dans les choses ennuyeuses dont nous parlait Listar. Hein. C'est la structuration par tableur Excel. Donc, il faut vraiment faire des colonnes propres. Ça prend en général extrêmement beaucoup de temps. Ils font des t-shirts, mais ils font aussi des mugs assez sympathiques. Hein. I love spreadsheets, celui-là, il existait, on peut l'acheter en ligne. I love API, c'est leur petite touche personnelle. Ils développent au niveau des outils, au niveau des résultats. Hein, bon, il y a une très grande place à la visualisation des résultats. Ils utilisent beaucoup Giphy, par exemple, qui est un logiciel donc de graphes. Au niveau des outils, ici encore, ils sont pas mal dans cette optique de partager au maximum nos outils. Donc, si vous allez sur leur blog, vous tombez sur cette page Tools et vous avez en fait le catalogue de l'ensemble des outils qu'ils ont développés au fur et à mesure de ces événements. Bon, ça, c'est dans le principe. Hein, dans les faits, il y en a énormément qui marchent pas. Il y en a énormément qui sont ne marchent plus ou alors que qui évoluent en fait à chaque fois en fonction des besoins, donc du coup c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça quoi. Un projet pour illustrer un petit peu plus concrètement donc leur activité. Donc ça c'est un projet qui vise à voir quels sont, bon ça fait un peu une mise en abîme avec le thème, quelle est la représentation du champ des digital humanities selon Amazon, c'est-à-dire en quoi est-ce que le système de suggestion d'achat par Amazon crée une bibliographie spécifique si vous voulez. Donc du coup, là, le process d'action, si vous voulez, était de partir d'une sélection de livres, une dizaine des Digital Humanities. Bon, on prend un petit peu les plus connus à ce niveau-là. On soumet cette liste à l'API d'Amazon en leur demandant, bon, sors-moi les historiques d'achat à 3 niveaux. Les personnes qui ont acheté ça, ont acheté ça, ont acheté ça, etc., etc. Voilà, ça permet donc de sortir avec un ensemble l'ensemble de requêtes qu'on peut transformer en graphe et ensuite arriver à le visualiser. Là, le problème, c'est qu'il n'y avait pas forcément assez de... C'est une requête qui a été faite pour plusieurs pays. Là, on voit juste Amazon.com. Ça a été fait pour une dizaine de pays. Malheureusement, il n'y avait pas assez de requêtes pour l'ensemble des pays, donc il y a eu une sélection à faire. Et ici, pour le coup, sur ce projet spécifique, les données ont été mises en ligne sur GitHub, mais c'est pas du tout, pour le coup, non plus une pratique répandue. Ils mettent en avant le fait qu'ils le font, mais c'est pas forcément toujours vrai. Les derniers mots de conclusion, donc, vous avez bien vu que c'est un travail relativement exploratoire, se basant sur une littérature grise, hein, mais qui donc déjà essaye de mettre en avant plus, pas des réponses, mais des lieux où l'on peut potentiellement observer des frictions de données, des choses ennuyeuses, et mettre en place une méthode d'analyse pour une enquête de terrain. Voilà, qui pourrait potentiellement, là on part vraiment sur la prospective, hein, la programmation, une étude qui pourrait se baser sur trois niveaux d'analyse. Donc à la fois, on a beaucoup parlé d'infrastructures, hein, quelles sont les relations entre ces différents types de recherches et les infrastructures de données, mais également avec les infrastructures de recherche. On voit par exemple que les culture analytics ça, et les digital methods, ça tourne beaucoup autour d'une figure très importante qui fait un petit peu, qui crée un peu une sorte de marque autour de cette perspective et qui la défend, qui la présente dans différents colloques, etc. Une mise en une scénarisation, si vous voulez, de ce type de recherche. Comment est-ce qu'ils sont positionnés à travers à l'université, d'où est-ce qu'ils tirent leur financement, comment ils sont pour se publier, etc. Un deuxième niveau d'analyse, donc plus au niveau des méthodes, ça c'est ce que j'ai déjà commencé un petit peu à faire, hein. Comment est-ce que le code et les données circulent entre les chercheurs, quelle division du travail entre les chercheurs, pour le coup SHS et les ingénieurs. Et un dernier niveau d'analyse un petit peu plus épistémo, hein, sur les différentes chaînes de travail dans le cadre de ces pratiques de recherche. Quelle partie du processus est sous-traitée aux outils numériques? Est-ce qu'il y a de nouvelles étapes qui sont mises en avant, etc., etc. Tout cela encore très programmatique, mais qui devrait être mis en application dans pas longtemps. Je vous remercie de votre attention.
Dans ces différents la nature des fonctionnements économiques, c'est-à-dire quel type d'économie est derrière, ou comment ça se développe, comment ça se transforme, comment ça interagit avec, je sais pas, le milieu des start-up ou toutes sortes d'acteurs qui est là un peu. Enfin, moi, je l'ai pas beaucoup vu, quoi. Voilà, c'est juste.
Je pourrais surtout parler, en fait, pour Amsterdam Digital Method, où j'y suis quand même allé plusieurs fois. Le milieu de la start-up, ça reste assez cloisonné, hein. Ils ont pas forcément énormément de liens, ou alors des liens. Ils ont pas mal de liens, plus avec le milieu activiste Amsterdam, moi, qui est quand même assez présent, notamment autour de la VAG Society, WAAG, donc qui est voilà, un pôle culturel très présent à Amsterdam, qui fait beaucoup de choses autour de l'open data et autres. Au niveau économique, bah, après, c'est une cellule de recherche, hein, donc ils sont reliés à l'université d'Amsterdam. Ça marche beaucoup par projet. Pour Manovic, là pour le coup, ben, c'est un peu plus à l'américaine. Il y a là, à Calaititu, justement, il y avait pas mal une petite pépinière d'entreprises qui gravitaient autour d'eux, qui participaient à ce qui intervenait sur certains projets. Donc il y avait certaines étapes qui étaient sous-traitées à ce niveau-là. Mais voilà, là je ne saurais pas non plus aller très très loin à ce niveau-là. Sachant aussi que ce qui est intéressant, c'est que donc Manovic a créé cette cellule de recherche dans une école d'ingé, et il y a un an, si je ne m'abuse, maintenant il est passé au Graduate Center de c'est pas NYU, c'est Central University New York, qui est pour le coup, et là pour le coup il est dans un laboratoire de DH assez traditionnel, quoi, avec des personnes en littérature ou autre. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que potentiellement ces recherches vont continuer avant. Donc c'était cohérent le type de recherche qu'il faisait avant avec son milieu, avec son contexte. École d'ingé, on fait du big data. Enfin, du moins, on peut, c'est plus facile si on a un ingé à côté. Là, dans un département de DH un peu plus traditionnel, voir comment est-ce que ça peut évoluer, ce serait intéressant.
Oui, j'ai deux questions, l'une qui ne touche pas exclusivement à ton travail, mais quand on parle de, j'ai envie de dire, de méthodologie des méthodes ethnographiques, notamment par rapport à ces données qu'il faut triturer, retriturer, où on perd des choses, on a gagne, etc., ou je ne sais pas, est-ce que... une des questions qu'on peut se poser par rapport aux travaux qui se font sur le web, c'est est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'oubli ou de mise entre parenthèses de travaux précédents, par exemple des sociologues qui pouvaient expliquer comment le fait de travailler avec l'INSEE créait une sorte de médiatisation qui servait aussi d'une certaine manière de filtre par rapport à des questions, des enjeux, des thématiques qui pouvaient se poser. Donc c'est est-ce que il faut qu'on refasse la méthodologie de cette socio-ethnographie des données, c'est un peu général. Et la deuxième question, ça serait sur cette ethnographie, on en parlait ce midi, je disais que moi je faisais un peu la promotion de l'ethnographie de ses propres pratiques. Est-ce qu'il y aurait intérêt à regarder de près comment travaillent les informaticiens, par exemple, d'Amsterdam, attachés autour de Rogers, et pour un peu comprendre ce qui se produit en termes de culture numérique, quelle est leur habileté digitale, j'ai envie de dire, mais aussi avec les doigts, comme avec les savoirs qu'ils manipulent, et comment cette première culture numérique, c'est-à-dire cette compétence un peu technique, se traduit en culture numérique affichée, puisqu'ils publient sur des sites web qui sont renommés, qui sont consultés et qui font norme.
Au terme du, ouais, au niveau du double niveau de la culture numérique dont tu parles. Surtout pour Amsterdam, je pense que ça peut être relativement intéressant parce qu'on peut potentiellement voir la genèse d'une certaine culture numérique au niveau de la pratique informatique. Parce que au niveau de la manière dont cette équipe de recherche est structurée. La personne qu'on a vue qui avait les petits yeux, lui, c'est Eric Bora, donc c'est un ou deux informaticiens présents dans cette équipe de recherche. Bon, il fait une thèse en... c'est Media Studies, hein, même si c'est bon, c'est plus Web Studies. Donc il est PhD candidate comme les autres, sauf que les 5-6 autres doctorants autour de lui, eux pour le coup, sont SHS un peu purs. Sauf que du coup, au fur et à mesure de côtoyer cette personne, mais également donc de mettre les mains dans le cambouis tout simplement, il y a l'acquisition de pratiques concrètes de nettoyage, structuration, voire extraction de données, etc., etc., un petit peu toute la chaîne. Les deux mugs qu'on voyait, hein, voilà, I love spreadsheet, hein, au bout d'un moment, il faut travailler dessus. Donc là, à ce niveau-là, ce serait possible de trouver des éléments de réponse sur comment est-ce qu'il y a un peu percolation d'un habitus informaticien, si tu veux, vers comment est-ce que ça rencontre un habitus SHS. Après, pour j'allais dire le deuxième effet qui se coule, hein, de la culture numérique niveau 2. Là, oui, il faudrait voir un petit peu comment est-ce qu'ils mettent en place tout un appareillage sur le web de transmission de leurs travaux, etc. Même si j'ai l'impression que ça reste... Bon, ils ont des blocs de recherche, bien évidemment, mais ça reste un peu traditionnel, je crois, la manière dont ils valorisent leurs études, j'ai l'impression.
Et donc, il y avait une autre question.
Oui, vous avez évoqué le travail du Guardian. Globalement, quel est l'accueil des médias grand public par rapport au SHS ? Est-ce qu'il y a une demande de votre part, je crois que oui, normalement, hein, vers direction de journaux comme Le Monde ou Place de la Toile, France Culture ? Est-ce qu'il y a l'idée d'essayer de faire connaître ce que vous faites au-delà du cercle des SHS ?
Merci de la suggestion. Oui, je dois vous avouer que j'y avais pas forcément trop pensé. Est-ce que ça correspond à une réponse? Disons que peut-être l'enjeu serait de faire en sorte que ce soit pas un débat qui intéresse juste les chercheurs du champ, etc. Donc oui, bien évidemment, ça peut être très... Si ça intéresse d'autres personnes, oui, bien évidemment, avec plaisir.
D'après votre appréciation, tout se fait, au moins implicitement en anglais. Il n'y a aucun problème de langue et aussi Autre problème, disons éventuellement, il doit y avoir des encadrements de type légal, des structures dans lesquelles la possibilité d'accès à certains données doivent être limitées selon aussi des, disons, des régimes nationaux. Si par exemple vous prenez, admettons qu'il existe un laboratoire chinois, un laboratoire japonais, alors toutes ces données peuvent être très différentes et la comparaison pourrait se faire non pas selon des outils, disons des types théoriques, mais plutôt d'autres types de contextes, de type peut-être ethnologique plus classique. Je ne sais pas, peut-être que c'est trop tôt pour évoquer ça, mais dans le futur, vous envisagez de regarder ça aussi.
Oui, non, c'est une très bonne suggestion. C'est peut-être ce qu'il y avait derrière le premier point, quand je mets trois niveaux d'analyse, niveau infrastructurel. Peut-être que ça correspond à votre suggestion, hein. L'idée, quelles sont les relations de ces cellules de recherche avec les infrastructures de données qui sont déjà existantes ou alors qui se mettent en place. Et là, pour le coup, ben, c'est national. Pour le coup, bien sûr, comment est-ce que Amsterdam y gère avec ses initiatives au niveau hollandais, que je ne connais toujours pas. Aux États-Unis, on en apprend un petit peu plus, là, puisque pour le coup, justement, Manovich deal avec ça plus directement. Donc oui, bien évidemment.